Avis critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai, Avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres attendus de cette rentrée 2020 et qui posent de façon très différente la question de la liberté. Dans Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques publiée aux éditions La Découverte, Pierre Charbonnier mène une enquête philosophique pour proposer une histoire environnementale des idées politiques. Si les notions d'abondance et de liberté ont marché main dans la main depuis trois siècles, ce long compagnonnage est aujourd'hui remis en cause. Il est donc urgent de remonter aux sources du pacte entre démocratie et croissance. Le second essai dont il sera question ce soir est signé de l'historien Johan Chapoutot, « Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui » est publié par Gallimard. Il montre comment toute une réflexion managériale a été menée sous le Troisième Reich, qui révèle certains rapports à l'État et à la liberté contre l'idée qu'on s'en fait habituellement pour une réflexion sur le culte de la performance qui résonne encore à notre époque. Et en studio pour débattre ce soir, Joseph Confavreux de Mediapart. Bonsoir Joseph.
Bonsoir.
Et Thibaut Sardier de Libération. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Pierre Charbonnier, Abondance et liberté, une histoire environnementale, publiée donc aux éditions La Découverte. Pierre Charbonnier est un jeune philosophe chargé de recherche au CNRS et ce livre arrive auréolé d'une certaine attente et déjà de glorieux patronage. Pendant Cité Quin, le sociologue Bruno Latour avait tweeté, oui on tweet sur les livres, sur les essais aussi, il avait tweeté avant sa sortie, difficile de surestimer l'importance de ce livre qui permet pour la première fois de greffer la tradition socialiste sur ce qu'il y a de plus radical dans les questions dites écologiques. Pierre Charbonnier a d'ailleurs été reçu sur notre antenne, sur France Culture, aussi bien au matin qu'à la suite dans Les Idées. Comme je le disais, il s'agit d'une enquête philosophique qui propose une histoire environnementale des idées politiques modernes. Le terme de moderne est important et doit être entendu dans son sens historique puisque Pierre Charbonnier remonte au XVIIe siècle afin de traquer les mutations dans la construction juridique et technique de nos sociétés de croissance et la façon dont ces mutations ont affecté la notion de liberté. C'est une notion qui est au centre de l'essai. Il est donc d'abord question de la modernité pré-industrielle, puis du 19e, 20e siècle, cet âge de l'extraction et de l'utilisation croissante des énergies fossiles, et enfin de notre époque, celle de la prise de conscience globale de la catastrophe. Tout le projet du livre, c'est tenter de déployer cet encastrement complexe des aspirations et luttes pour la liberté dans une histoire matériel, ni enthousiasme angélique pour la modernité, ni collapsologie. Il s'agit de politiser la question écologique. Thibaut Sardier, s'il fallait extraire une idée de ce projet très ambitieux, ce serait probablement celle de l'usage du monde. Les questions sociales, politiques, économiques et évidemment environnementales sont analysées à travers l'histoire d'un certain rapport à la terre, au territoire.
Oui, il y a une phrase clé dans les premières pages du livre qui permet de bien comprendre ce projet. Les rapports collectifs à la nature, nous dit Pierre Charbonnier, ont toujours été au cœur de la construction politique et historique des sociétés. Et c'est finalement ce point-là qu'on a un peu oublié à son sens. L'idée qu'on a élaboré une philosophie politique, on se réclame de principes hérités de la Révolution française, puis de Tocqueville, enfin, ici toute une série de penseurs du politique. Mais on a fini par laisser de côté l'attachement à la terre sur lequel reposaient tous ces courants dont nous avons hérité. Et donc, le livre de Pierre Charbonnier essaie, et c'est pour ça que ça s'appelle « Histoire environnementale des idées », de retisser ce lien de façon approfondie. C'est donc pas simplement un livre pour nous présenter des penseurs écolos qu'on ignorait. C'est pas Marx écolo avant l'heure, c'est plutôt comment le rapport à la terre, le rapport aux ressources s'inscrit dans des pensées qu'on ne considérait que comme politiques. Il montre que les deux sont liés. Et à l'heure de la crise écologique, à l'heure où la concentration de CO2 dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter, il a ces quelques mots dans l'introduction qui sont assez intéressants, où il dit que durant le temps de l'écriture du livre, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est passée de 400 à 410 parties par million, donc c'est-à-dire le nombre de molécules de CO2 présentes dans l'atmosphère, ce qui donne finalement une idée de la rapidité. Et dans ce contexte d'accélération de la crise écologique, de l'effondrement de la biodiversité, il remet un petit peu en ordre la pensée politique pour le 21e siècle avec cette idée simple qu'on ne peut plus faire reposer notre projet politique de liberté, d'émancipation des individus sur l'idée d'une croissance illimitée, d'aller chercher de plus en plus de ressources. Hein. Ça a été les colonies, c'était le charbon, le pétrole. On ne peut plus faire reposer la liberté sur ce modèle. Donc, que faut-il inventer pour aujourd'hui? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point corollaire, c'est que il faut dépasser une pensée politique qui s'est forgée dans ce contexte et qu'à son sens, on utilise encore. Pour faire simple, la pensée du 19e siècle autour du marxisme pour ce qui concerne la gauche, lui, il propose de refonder un socialisme, un pacte social qui ne repose plus sur des idées héritées de ce contexte de l'extraction et de l'abondance.
Oui, d'où une réflexion évidemment sur la question du matérialisme historique hérité de Karl Marx, Joseph Confavreux. Mais pour continuer sur cette idée de l'usage du monde, c'est vrai qu'il y a cette tension qui est mise en avant par Pierre Charbonnier entre cet usage du monde et ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire l'usage inconditionnel de notre liberté.
Oui, c'est vraiment le cœur le cœur de son analyse, c'est comment continuer, parce que le pacte entre démocratie et croissance qui a été forgé, il insiste bien sur cette idée que les Lumières nous ont pas laissé simplement un héritage politique, mais aussi un héritage matériel dans l'idée que, au fond, était indissociable la conquête de la liberté et la conquête d'une forme d'abondance matérielle, en tout cas de fin de la pénurie qui marquait les sociétés d'avant. Même si ça, et il le rappelle, je trouve que c'est vraiment là où il est quand même, il articule de manière assez admirable le fait que le mensonge du 19e siècle, c'est-à-dire qu'en fait cette autonomie qui a été la ligne de conduite des sociétés politiques, s'est achetée au prix de l'exploitation notamment des marges et des marges coloniales. C'est là où son livre est à la fois très inquiétant, hein, il faut bien le dire. C'est vrai que cette nouvelle échelle de datation, puisqu'il dit qu'il est né lui à 340 ppm et que maintenant on est à 410 ppm, enfin on pourrait arrêter de penser à partir de Jésus-Christ, on pourrait penser en ppm maintenant, mais bon. Donc cette manière qu'il a de à la fois nous montrer la trajectoire catastrophique et surtout insoutenable dans laquelle on est, et en même temps de dire qu'au fond il y a une forme de contingence dans la manière dont s'est noué le pacte entre croissance et démocratie, et que donc peut-être qu'en y revenant, c'est pour ça qu'il fait une enquête philosophique généalogique, en revenant par exemple au premier libéralisme, toutes ces analyses sur Adam Smith montrent que au fond il n'y avait pas cette voracité qu'on voit aujourd'hui dans ce qu'on appelle le libéralisme, hein, et je trouve qu'il a des pages vraiment très intéressantes pour repenser le libéralisme de manière vivable et soutenable. Et ben, on peut envisager une nouvelle ambition démocratique à l'âge de l'Anthropocène, pour le dire vite.
Eh ben, on va essayer de comprendre ce que pourrait être cette nouvelle ambition démocratique à l'âge de l'Anthropocène. Mais un mot tout de même, Thibaut Sardier, sur l'autre terme important, puisqu'il est dans le titre, hein, qui est celui d'abondance. On l'a compris, c'est absolument central dans la pensée de Pierre Charbonnier, puisque c'est cette question de pouvoir jouir sans entrave, pour le dire avec une autre expression, des biens de la terre, l'abondance qui est liée, qui marche main dans la main avec la notion de liberté. Et c'est ça qu'il faudrait déconnecter à l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire à l'ère où l'homme a la puissance d'agir sur son environnement, mais ne semble plus avoir la puissance politique. C'est autre chose qui intéresse Pierre Charbonnier, ne semble plus avoir la puissance politique de faire quelque chose une fois qu'il s'est rendu compte que ses actions étaient néfastes et nous emmenaient droit dans le mur.
Et c'est l'intérêt aussi d'historiciser cette pensée, c'est de montrer que ce couplage entre l'abondance et la liberté est une contingence historique, pour reprendre ces termes, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer un projet de liberté et d'émancipation individuelle qui ne repose pas sur la prédation des ressources, pour la simple et bonne raison que ça a déjà été le cas par le passé. Et il a cette remarque intéressante, pour rebondir sur ce que disait Joseph, qui est que finalement les idéaux de la liberté révolutionnaire, enfin de la liberté des modernes, ont d'abord été élaborés avant que le charbon ne se développe et ne vienne justement fonder cette alliance. Donc en remontant aussi cette histoire, on peut retrouver des moments qui fondent une pensée détachée de la prédation des ressources. Et puis, dans ce rappel historique, il y a aussi des moments, alors des pensées qui, d'une certaine façon, ont été mises en échec face à l'histoire, d'une certaine façon, mais qui permettent de s'imaginer ce que pourrait être un tel projet. Par exemple, sur Smith, il oppose ce modèle manufacturier anglais libéral au physiocrate français, qui était vu dès la fin du XVIIIe siècle, finalement, notamment par Smith, comme un espèce de modèle agraire étatiste un peu dépassé. Il montre que pour les physiocrates, les savoirs de l'économie, actualise la vitalité des sols et des hommes, dit-il, qui s'y répartissent. Autrement dit, cette question du lien à la terre, aux ressources, là où elles se trouvent, est explorée, approfondie par les physiocrates dans un modèle qui, voilà, a eu ses limites, mais qui a aussi d'une certaine façon fonctionné. Donc voilà, l'intérêt de la démonstration, c'est un petit peu de montrer cette connexion entre les deux, et inversement, évidemment, de souligner à quel point nous en sommes détachés. Il y a un concept, je finirai là-dessus, qui est assez important.
Non, mais vous n'avez pas fini, Thibaut Sardin.
Sur cette réponse-là, évidemment, mais qui, à mon avis, est assez centrale et qui fait écho à ce 19e siècle colonial qui allait chercher les ressources là où elles se trouvaient. C'est la question de l'ubiquité des modernes, c'est-à-dire l'idée que la pensée occidentale a raisonné sur deux espaces différents, l'espace du droit, l'espace du coup de la liberté, celui où pouvait émerger ce projet d'émancipation individuelle, autrement dit les États occidentaux, mais les occidentaux ont aussi vécu sur l'espace des ressources, qui du coup était beaucoup plus large, l'espace des colonies, dans lequel on allait chercher le charbon, l'or, le pétrole, ce que vous voulez, et là, évidemment, là-bas, il n'était pas question de développer des projets de liberté.
Oui, c'est ce qui amène Joseph Confavreux, Pierre Charbonnier, à établir une sorte de triptyque, hein, subsister, habiter, connaître, c'est-à-dire les formes de subsistance, ce qui nous permet de survivre, de vivre même, et même de vivre dans l'abondance, puisque c'est l'un des termes importants du livre, la territorialité, là où on habite, et donc d'où cette distinction évidemment entre l'espace occidental et l'espace des colonies, et enfin, comme je le disais, connaître, et donc là, c'est toute cette histoire de la pensée politique, qui est aussi une pensée, et une pensée écologique.
Oui, trois types de rapports à la terre, et c'est là où Pierre Charbonnier défriche quand même quelque chose, c'est dans cette façon qu'il a de chercher la matière des idées. C'est-à-dire que on est, comme il emploie le terme, dans les structures géo-écologiques de la pensée. Moi, c'est là où je trouve que c'est assez impressionnant, parce qu'il reparcourt quand même la philosophie. C'est pas un livre sur, effectivement, Thibaut Sardier le disait, sur des nouveaux penseurs écologiques. Au contraire, c'est on reparcourt toute une grande partie, en tout cas, de la philosophie occidentale, en cherchant au fond dans quel contexte matériel et notamment géo-écologique ces pensées ont été produites. Et lui, il dit que bon, voilà, il est embarrassé par ce terme de nature, hein, dont on sait depuis Descola, qui est un peu l'autre maître avec Bruno Latour, de Pierre Charbonnier, qu'on ne peut pas opposer nature et culture, enfin que c'est déjà un piège que nous tend la modernité. Et donc il propose de faire éclater la notion de nature autour de ces trois types de rapports à la Terre, de ces trois types d'usages du monde. Et en fait, à chaque fois, il va chercher y compris Guizot, y compris Tocqueville, voilà, Tocqueville, il a des pages très intéressantes sur le fait que, au fond, peut-être que Tocqueville dit que son analyse de la démocratie américaine vient, en fait, est possible, la démocratie américaine, en raison des grands espaces, soi-disant vides, hein, à l'économie de l'élimination des populations qui vivaient là. Mais donc à chaque fois, et par exemple, il y en a un autre où on voit bien, qui est le philosophe allemand Johann Fichte, qui dit, au fond, on peut pas découpler le territoire juridico-politique et le territoire économique, parce que de fait, l'Europe vit d'un espace qui n'est pas le sien au XIXe siècle. Et donc, à chaque fois, il prend des philosophes, des penseurs très consacrés, mais il montre en fait les infrastructures de leur pensée.
C'est absolument fondamental ce que vient de dire Joseph Confavreux, Thibaut Sardier, sur l'impossibilité de déconnecter ces deux sphères, pour reprendre aussi un terme qui est la sphère de la question sociale et la sphère de l'écologie. Alors, aujourd'hui, c'est une idée évidemment qui a fait son chemin sur la dimension sociale de l'écologie politique. Mais ce que fait Pierre Charbonnier, c'est qu'il donne un petit peu de chair, de matière et surtout une historicité à ce lien inséparable entre ces deux sphères. Voilà, il n'y a pas d'autonomie entre la sphère de la question sociale et la sphère écologique.
Et c'est là où peut-être qu'il faut parler un petit peu de Marx, parce qu'il souligne aussi le problème qu'il y a à fonder toute cette pensée de la question sociale sur Marx, puisque il considère que le marxisme a surestimé le destin productif de la civilisation globale, c'est-à-dire qu'il a tout vu sous un prisme économique, y compris la relation entre les sociétés et la nature, sous un rapport économique et productif. La conséquence, c'est que face au libéralisme qui avait justement fondé sa pensée sur cette alliance entre abondance et liberté, le socialisme, à partir de Marx, a reproduit lui-même cette idée que un projet social cohérent, était un projet qui redistribuait les fruits de la croissance et donc induisait un rapport productif et exclusivement économique à la nature. Et c'est là que le bât blesse, et c'est là aussi qu'il fait appel à d'autres penseurs, dont un qui est assez central dans son travail, c'est Karl Polanyi, auteur à la fin de la Seconde Guerre mondiale d'un ouvrage qui s'appelle « La Grande Transformation ». Et qui, lui, justement, laisse ouverte cette question des rapports entre la société et ce qu'on appelle encore à l'époque la nature. Charbonnier nous appelle, lui, à ne pas justement reproduire cette dualité nature-culture. Mais c'est en trouvant un espace au sein de la pensée socialiste où les rapports entre la société et la nature peut être pensés sur le mode d'une alliance qu'on trouvera les fondations, les fondements pour une nouvelle pensée politique.
Une nouvelle pensée politique de gauche, Joseph Confavreux, on l'a compris dans cet ouvrage de Pierre Charbonnier, Abondance et Liberté, une histoire environnementale des idées politiques publiée aux éditions de la Découverte, qui repense la question du matérialisme, qui repense la question du lien entre abondance et liberté, et aussi donc entre liberté et autonomie, entre abondance et autonomie du sujet, puisque on comprend qu'il dit qu'il faut décarboner les aspirations démocratiques, sous-entendu, il ne faut plus lier ces aspirations démocratiques, cette liberté, à la notion d'abondance telle qu'on l'a pensée jusqu'à présent.
Oui, il prolonge en cela le travail déjà assez important de Timothy Mitchell, qui avait fait ce livre qui s'appelait Carbon Democracy, qui montrait à quel point, au fond, nos structures de savoir et de pouvoir, nos organisations démocratiques, étaient dépendantes, au fond, des infrastructures énergétiques. Qu'on n'avait pas la même organisation du pouvoir démocratique à l'âge du charbon ou à l'âge du pétrole, voire à l'âge du nucléaire. Et lui, il poursuit ça en disant c'est non seulement nos manières d'organiser nos sociétés qui dépendent au fond de nos rapports à la terre et notamment à l'énergie, mais en fait c'est nos manières de penser, c'est nos manières de vivre notre autonomie, de définir notre autonomie, et c'est là où il entre dans la zone assez fondamentale, tout en donnant pas les réponses complètes pour le monde d'aujourd'hui, en disant au fond aujourd'hui on est entré encore dans un âge supérieur avec le changement climatique qui impose de transformer nos idées politiques et notamment nos idées de l'autonomie, qui est la base de notre manière de penser la politique, à une échelle qui soit la même que celle du changement climatique. Bon, c'est là
ce qui rend la tâche difficile.
Ce qui rend la tâche difficile, ambitieuse, mais il dit bien, et c'est intéressant, il dit, c'est pas en freinant, au fond, la croissance, c'est pas simplement, on se dit, on va un peu décélérer, on va faire de la finance verte, on va faire un peu plus de vélo, qu'on va réussir à transformer un pacte entre la nature, même si le terme est pas le bon, et les humains, qui est aujourd'hui complètement en train de vriller, enfin, qui a déjà vrillé, et qui ne peut être que recomposé sur des bases totalement différentes. Et lui estime, et sans doute à juste titre, que voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Thibaut Sardier, que peut-être quand même on peut trouver dans l'histoire, si ce n'est les méthodes, du moins les moyens de penser à nouveau frais ce pacte.
Oui, ce livre de Pierre Charbonnier est destiné à la question des idées, repenser la pensée critique notamment, c'est un des objectifs, mais il y a aussi une volonté de Thibaut Sardier qui peut sembler étonnante, qui est de dire il faut politiser la question écologique. Alors quand on entend ça, évidemment on se dit c'est quand même un certain temps que la question écologique est dans le champ du politique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Pierre Charbonnier?
Alors,
pour parler un peu d'aujourd'hui,
ce qui veut dire déjà, c'est que c'est authentiquement faire de l'écologie, c'est authentiquement une politique de gauche, dans la mesure où le libéralisme et le capitalisme se sont tellement construits autour de ce couplage que de toute façon, une écologie de droite ne peut pas être une écologie sérieuse parce qu'elle nous amènera nécessairement du côté de la croissance et des ressources. Et que c'est donc à la gauche de se réapproprier la question, encore une fois en faisant reposer la liberté sur d'autres bases. Et l'ambition est là finalement. Lui, il n'en donne effectivement que des clés de lecture théorique et pas d'application pratique. Mais ce n'est pas la fin de la démocratie. Ce n'est pas le moment où on va nécessairement rogner sur nos libertés. C'est pas non plus un retour à l'âge de pierre, une entrée dans la décroissance ou dans la collapsologie. C'est avant tout un changement de mode de pensée et de représentation du monde qui, d'une certaine façon, dépasse ce qu'on entend habituellement dans des limites restreintes par écologie. Puisqu'il propose à la fin du livre un projet de symétrisation qui repose sur trois piliers. En gros, il s'agit de revenir sur de grandes visions inégalitaires qui ont fondé la pensée moderne. La supériorité des hommes sur les femmes, ça, il en parle assez peu, mais il le mentionne tout de même. La supériorité de l'Occident sur ses anciennes périphéries, avec l'idée qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser les pays non occidentaux, les anciennes colonies, comme des espaces qui vont nous fournir des ressources gratuitement ou à faible coût, ou des matières premières. Et puis, la supériorité de la société sur la nature et donc tout ce qui est non social, avec l'idée que là aussi on peut tisser des liens, des collectifs, pour reprendre le vocabulaire de Latour, plus égalitaire, qui amènera à se représenter le monde différemment, à penser différemment le rapport de l'homme aux ressources dont il a besoin, et à partir de là, du coup, à fonder un autre contrat social, si on veut utiliser un grand mot, qui sera débarrassé de cette question de l'abondance.
Oui, on est un peu obligé d'utiliser un grand mot, hein, puisque c'est ce à quoi nous appelle Pierre Charbonnier.
Oui, parce qu'on n'a pas le souci étant qu'on n'a pas les outils juridiques, institutionnels et même le vocabulaire pour cette étape. Il montre bien qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question, c'est plus local, global, mais que la manière dont on pense la souveraineté à l'âge du changement climatique est complètement absurde, puisque c'est bien pour ça qu'on n'arrive pas à faire dévier les émissions de gaz à effet de serre, puisque même si un pays décidait dans son coin de respecter des taux d'émissions soutenables, et ben de toute façon c'est global. Donc en gros, on est quand même un peu pris dans cette nasse où on sent bien que il faut un grand changement théorique, mais que ce changement théorique, il ne peut être que soutenu par un mouvement politique. Et c'est là où le livre de Pierre Charbonnier reste ouvert. C'est quel est le sujet, au fond, aujourd'hui, le sujet de la politique et le sujet de la critique. Parce que jusque-là, on avait le prolétariat, on voyait à peu près les forces historiques. Là, aujourd'hui, on voit bien que c'est beaucoup plus brouillé.
Mais en termes de politique, entre guillemets, politicienne, l'intérêt immédiat, c'est aussi de dire aux partis, Europe Écologie Les Verts, pour être clair, arrêtez de nous expliquer que l'écologie va nécessairement passer par un espèce de juste milieu consensuel. Osez vous positionner là où l'écologie doit véritablement se situer.
Pierre Charbonnier, Abondance et Liberté, une histoire environnementale des idées politiques, c'est publié aux éditions La Découverte.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourgois.
Up on the stairs, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
David Bowie, The Man Who Sold the World, sorti en 1970, il y a déjà 50 ans. On annonce une version acoustique hein, dans un nouvel album à paraître en avril. L'album Changes Now Bowie, deuxième temps de l'émission. Je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre de Johan Chapoutot, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, publié chez Gallimard dans la collection NRF Essai. Johan Chapoutot est historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris Sorbonne, spécialiste du nazisme. On lui doit des ouvrages comme Le nazisme et l'Antiquité, publié aux presses universitaires de France, ou La loi du sang, penser et agir en Asie. C'était chez Gallimard. S'il fallait trouver un fil directeur dans ses travaux, ce serait l'idée que le nazisme n'est pas un accident de l'histoire, une exception allemande incompréhensible, mais bien un épisode ancré dans l'histoire européenne. C'est ce qu'il fait cette fois encore en se penchant sur la question du marketing ou Menschenführung, car les nazis goûtaient peu le terme anglo-américain. En effet, alors que le Reich est amené à s'étendre, à conquérir un Lebensraum, un espace vital de plus en plus vaste, alors que la guerre envoie un nombre croissant d'hommes au front, il est impératif de faire mieux avec moins, d'améliorer les performances des entreprises comme des administrations. C'est la tâche qui est confiée à un homme, Reinhard Heine, un juriste brillant qui gravira les échelons jusqu'au grade de général de la SS. Johan Chapoutot articule son travail autour de ce Reinhard Heine qui ne sera que très peu inquiété après la guerre. Il fondera même une école de management prestigieuse, une sorte d'équivalent de l'INSEAD ou de la Harvard Business School, et qui a formé des générations de dirigeants d'entreprises allemandes. Mais libre d'obéir n'est pas un réquisitoire contre les managers. Il ne s'agit pas de dire que le management a des origines nazies ni qu'il est une activité criminelle par essence. En revanche, il montre bien comment ces réflexions s'inscrivent parfaitement dans le contexte intellectuel de l'époque, marqué par le racisme biologique et le darwinisme social. Comment aussi elles révèlent la méfiance des nazis pour l'État et leur goût pour une certaine forme de liberté. Une idée contre-intuitive, donc c'est un essai qui change, Joseph Confavreux, la compréhension qu'on a du totalitarisme.
Oui, c'est
enfin, de ce totalitarisme-là, en tout cas.
C'est un livre, quand on le prend d'abord dans les mains, on peut se dire, oulala, et ça commence avec un point Godwin, quoi. Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui.
On enfin, a l'impression. Johan Chapoutot travaille sur le nazisme,
et donc heureusement, le point Godwin, c'est ça. Et dès qu'on voit que c'est Johan Chapoutot qui l'a écrit, on est rassuré. Vous l'avez dit, il ne s'agit pas de dire que le management a une origine nazie, ni que le management est une activité criminelle par essence, mais le sous-titre est un petit peu. Au départ, hein,
il faut vendre des livres, Joseph.
On se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Mais effectivement, Johan Chapoutot est un grand historien du nazisme qui n'a cessé dans ses travaux de montrer que ce n'était pas une aberration accidentelle de l'histoire, mais souvent il en faisait du coup une généalogie. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille beaucoup sur l'amont, là il travaille aussi sur l'aval, en montrant qu'au fond, les manières de manager les hommes qui se sont inventées sous le nazisme ont eu des prolongements après la guerre, et en fait, simplement par l'intermédiaire des mêmes personnes qui avaient inventé, et notamment ce Reinhard Heine dont on va parler, qui en fait c'est un livre hein, qui est un peu le portrait de ce personnage, que moi je connaissais pas, qui a fini quand même avec un grade de général de la SS et qui après s'est complètement reconverti sans avoir à quitter son pays. Les deux choses les plus surprenantes, avant d'entrer dans le détail de la méthode de Reinhard Heine, c'est effectivement deux choses. D'une part, de comprendre que, en fait, ce qui est logique, mais qu'avec un territoire en expansion, il fallait, et on n'avait pas plus d'hommes, et donc il fallait mieux manager les hommes. Pour simplement voilà, le Troisième Reich a été un espace où on a dû de fait réfléchir à comment bien organiser les choses
hein, et comment performer pour prendre un terme d'aujourd'hui.
Il y avait eu ce livre à la découverte qui s'appelait Extase Totale, qui était assez passionnant sur la manière dont la population allemande quasiment entière était droguée aux amphétamines parce que voilà, il fallait être bon quoi, parce qu'en plus dans la vision nazie où la race germanique est menacée de toutes parts, et ben voilà, il faut être les meilleurs. Et la deuxième chose, c'est que contrairement à l'idée qu'on a, et là je reviens à votre question, du totalitarisme qu'on traduit souvent par état totalitaire, et ben une bonne partie du droit nazi pensait contre l'État, et notamment ce Reinhard Heine, parce que l'État, c'était au fond la première étape de la fin du droit naturel, de la loi naturelle, des germains qui vivaient dans les forêts, en tribus, en sachant parfaitement comment se comporter, sans avoir besoin de tout ce qui est le droit romain, qui avait déjà été la première étape de l'abêtissement de la race germanique, dont le nazi promettait une forme de renaissance.
Et c'est un truc de français, l'État, c'est l'étape suprême, c'est évidemment Louis XIV, et c'est ça que détestent les nazis, ils y voient une forme de thrombose, hein, ça empêche empêche l'élan vital, le sang de couler. Voilà, on a toutes ces métaphores qui évidemment sont très très présentes. Thibaut Sardier, mais un mot tout de même du projet de Johann Chapoutot dans cet essai Libre d'obéir publié chez Gallimard, autour de cette question du management qui peut surprendre en effet.
Ouais. Moi, j'ai trouvé cet essai très pédagogique et ça m'a ramené à mes souvenirs de prof d'histoire-géo, où quand on essaie d'expliquer ce que c'est qu'un état totalitaire aux élèves, comme le disait Joseph Confavreux, on vient d'abord sur le terme d'état et où en plus l'imaginaire très puissant du nazisme et de ce qu'on en a fait ensuite fait qu'on voit ces descentes de Gestapo formulaire à la main et où on imagine la puissance de l'état. Et on a beau expliquer aux élèves depuis longtemps que justement le parti, la NSDAP double l'État, se substitue à lui, finalement il est difficile de donner à comprendre la substance, la réalité de ce que c'est que tout ce qui se construit à côté de l'État. Et par le biais de cette question du management, je trouve que Chapoutot y arrive très bien, rend les choses extrêmement claires, et donc ça éclaire l'ensemble du système du Troisième Reich à partir de cet exemple-là, avec cette notion qu'il mentionne à un moment, mais qui du coup devient une clé de lecture, c'est celle de polycratie, qu'il n'invente pas d'ailleurs, il en fait la généalogie, mais qui désigne un système où on multiplie les instances de décision. On ne sait plus finalement qui est responsable de quel sujet, et où finalement, et c'est là où le management va devenir intéressant, on va laisser l'initiative à quelqu'un à qui on donne l'ordre, et libre à lui ensuite de trouver les moyens d'y arriver, aller voir les bonnes instances, prendre les bonnes décisions et mettre en place le bon projet d'une certaine façon.
Avec cette idée de la performance encore une fois, et aussi l'idée du darwinisme social, je le disais tout à l'heure, Joseph Confavreux, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, et de ça va émerger même au sein donc de l'Allemagne, et de ça devrait émerger la solution la plus radicale, et c'est celle-ci que vont choisir les dignitaires nazis. C'est un peu ce que montre Johann Chapoutot, la démarche que montre Johann Chapoutot. Parlons un petit peu quand même de ce Reinhard Heun. Est-ce que vous pouvez nous en faire un portrait rapide, Joseph Confavreux?
Alors, pour le dire très rapidement, comme le dit Chapoutot, c'est une sorte de Joseph Mengele du droit.
Ça le situe. Non, Joseph Mengele, qui était le médecin d'Auschwitz, qui menait des expériences absolument ignobles, des tortures sur des jumeaux, par exemple, pour démontrer ses idées médicales.
Alors lui, il a pas de sang directement sur les mains, mais il en a quand même, finalement, par une forme de responsabilité. C'est un spécialiste de droit public, protégé de Himmler, un travailleur acharné, qui a une revue, notamment, qui va être très importante dans la structuration du droit nazi, et qui monte graduellement les échelons de la SS jusqu'à devenir Oberführer, donc un des grades les plus élevés dans le Troisième Reich, et qui donc en 45 donc réfléchit déjà à la conduite des hommes dans cette idée, hein, qu'il faut quand même rappeler juste que le nazisme pensait l'idée qu'en fait il fallait mettre fin, que la lutte des classes était une aberration venant de la Révolution française et du marxisme, et qu'on allait y mettre fin par un projet d'unité raciale, par le travail acharné du peuple allemand sain et travailleur, et que donc et ça il fallait quand même l'organiser, et donc il donne deux exemples assez passionnants. C'est ce qu'on appelle le Kraft durch Freude, donc le KDF, qui est une sorte de
la joie au travail,
qui est une sorte de, comme il dit, de comité d'entreprise à l'échelle de l'Allemagne tout entière, qui pense, avant ce qu'on a aujourd'hui, les chief happiness ou le fait de pouvoir faire du baby-foot dans les entreprises, qui pense qu'il faut que les lieux de travail soient quand même agréables, parce que le consentement demande du contentement. Donc ça, c'est un des aspects. Le baby-foot et enfin le baby-foot, c'est pas à l'époque c'était pas ça, mais l'équivalent du baby-foot. Et l'autre aspect, c'est donc une forme d'ancêtre du management par objectif, qui est de dire voilà, on vous donne, parce qu'on a, en fait, on a, comme je disais, on n'a pas beaucoup d'hommes pour administrer un tel territoire, donc on prend le modèle, c'est-à-dire que le Reinhard Heun en question, il était passionné d'histoire militaire, et notamment des réformateurs de l'armée prussienne qui, après la défaite de 1806, avaient permis, en repensant toute l'art militaire, de mener la Prusse aux différentes victoires du 19e siècle, d'abord contre la France, enfin d'ailleurs contre la France en 1813-1815, jusqu'à la France en 1871. Et donc c'est ça son modèle. Et ce modèle, il est fondé sur l'idée que on donne aux officiers de terrain ou sous-officiers de terrain un objectif, et après libre à eux de choisir les méthodes pour l'atteindre. C'est ce qu'il appelle, donc ils sont à la fois libres, mais libres seulement d'obéir, puisqu'ils ne doivent pas du tout discuter d'où vient l'ordre, mais ils ont toute la latitude pour l'appliquer. Et là, on voit effectivement bien comment le nazisme a pu se greffer sur une telle théorie, et là, on y venir après, mais comment finalement dépouiller, c'est-à-dire que le Reinhard Heine va abandonner, en tout cas formellement, son antisémitisme et son racisme congénital après la guerre, mais finalement appliquer à peu près les mêmes méthodes, proposer d'appliquer à peu près les mêmes méthodes dans l'entreprise et dans l'administration après la guerre.
Et ça aura des conséquences jusque très récemment. Johann Chapoteau cite l'exemple d'un livre d'un manager en 2012 qui raconte comment les méthodes qu'il appliquait étaient celles enseignées par Reinhard Heine jusque très récemment. Vous vouliez réagir, Thibaut Sardier, vous avez ouvert le livre, vous avez certainement une citation.
Oui, c'était pour rebondir sur la façon dont aussi ce système retravaillait la notion de responsabilité, qui est un élément clé qui va permettre aussi de parler des méthodes contemporaines de management, qui est que finalement, le chef n'est plus le seul responsable. Heine, dans l'un de ses livres, dit « La responsabilité n'est donc plus concentrée sur la seule et unique direction. Une partie de cette responsabilité est en effet transférée vers le niveau qui a pris en charge l'action. Car si vous donnez à un subalterne simplement un objectif sans lui dire comment faire, bah forcément il devient responsable des moyens par lesquels il y est arrivé. Et donc toute cette question de la responsabilité des crimes nazis est de ce fait réinterrogée par la façon dont le management a pensé cette notion et l'idée que qui était vraiment responsable des crimes dans la mesure où on ne dit pas précisément quoi faire à ceux qui sont chargés de l'appliquer.
Il faut dire un mot, Joseph Coufavreux, de la façon dont le livre est construit, ou en tout cas dont il est travaillé, c'est-à-dire que Johann Chapoteau va chercher comme archives, comme matériaux pour écrire son livre, toute cette littérature qu'on pourrait appeler un peu grise, hein, cette littérature du management, qui aujourd'hui revient un petit peu, hein, je pense à d'autres livres que celui de Chamaillou, par exemple, récemment, pareil, qui était aussi un petit peu sur ce même genre de questions, mais plus récemment.
Oui, alors après, ça c'est la méthode, hein, de Chapoteau, dont vous citiez en introduction La loi du sang, hein, qui est son maître ouvrage. C'est aussi justement sur, en fait, le nazisme, le Troisième Reich, produit un nombre de textes administratifs. C'est là où à la fois il y a l'idée de déléguer la responsabilité sans déléguer le contrôle, ce qui est quand même assez intéressant pour un chef, mais en même temps le Reinhard Heine en question, qui étudie Chapoteau, dans sa méthode, il y a quand même plein de réglementations. Il faut bien savoir qu'il y a plein de manières que le sous-officier ou le sous-responsable transmette ses ordres à l'autre. Mais voilà. Mais c'est vrai que pour revenir au livre de Chapoteau, ce qui est intéressant, c'est que il va pas sur les grandes lois du nazisme. Il s'intéresse vraiment à la mise en place très concrète de ce qui était aussi un défi managérial. C'est là où évidemment que on pense le nazisme, on pense crime de guerre, on pense l'horreur, on pense tout ça. Mais il dit voilà, c'est pas le premier, hein. Zygmunt Bauman avait déjà montré que voilà, il fallait pas penser, même si c'était un projet barbare, le Troisième Reich, comme un projet archaïque. C'était un projet contemporain. On a beaucoup parlé d'industrie de la mort. Et ben l'industrie, ça se gère, ça s'organise, ça demande de la logistique, et le Troisième Reich a été pionnier en la matière.
Vous dites il ne parle pas des grandes lois, toutefois il cite des personnages qui ont travaillé étroitement dans cette revue que vous citiez avec Reinhard Heine, que sont Wilhelm Stuckart, qui est le père des lois d'avril 1933 sur la restauration de la fonction publique allemande, qui en exclut évidemment les ennemis politiques et les juifs, et les lois de septembre 35, dites lois de Nuremberg, hein, qui redéfinissent la citoyenneté allemande en excluant ainsi les juifs, et Werner Best, qui est un des architectes de la Gestapo. Donc voilà, on voit qu'il y a un lien, ce sont les mêmes personnes finalement qui pensent ces grandes lois et qui pensent les lois du quotidien. Mais dans ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'intéressant et qui vient aussi contre une idée reçue que vous auriez pu peut-être combattre lorsque vous enseignez l'histoire et la géographie, Thibaut Sardin, qui est celle de l'efficacité des fonctionnaires allemands, en tout cas de l'organisation bureaucratique efficace, que nous dit Johann Chapoteau. Ce qui montre, c'est à quel point c'était le chaos, hein, une sorte de chaos organisé évidemment, mais c'est aussi un régime qui fonctionne sur le chaos.
Oui, alors il y a un élément là aussi très pédagogique qui est assez drôle, c'est que parmi les sources de Chapoutot, il y a aussi la fiction et l'art produit par le nazisme. Ça répond en partie à la question. Il y a notamment un film sur Robert Koch, celui qui a découvert le bacille qui porte désormais son nom, et un film qui met en scène la découverte et la façon dont il parvient à régler tout un tas de problèmes sanitaires. Et son principal ennemi dans le film, c'est Bureaucratius, c'est-à-dire un personnage qui incarne tout cet appareil administratif lourd de l'État allemand. Et là, on revient finalement sur cette question à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la communauté allemande, la Volksgemeinschaft, pardon pour l'accent, qui est l'idée que les nazis construisent vraiment l'idée de communauté allemande, de communauté germanique, qui sont pensés comme des égaux, que par conséquent, le système du management convient bien, car il fonctionne sur une espèce d'égalité. Chacun a l'initiative, chacun a un pouvoir d'action par rapport justement à un système pyramidal, bureaucratique, hérité de l'État moderne français, notamment puisque Chapoutot l'évoque, qui est une forme de chaos parce que incapable d'agir de la bonne façon au bon moment, là où la souplesse, soi-disant, du système défini par Reinhard Höhn est censée régler le problème. Après, il faut effectivement rappeler, comme Joseph Confavreux l'a fait, que l'une des raisons pour lesquelles on abandonne le système de Höhn dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'on se rend compte que finalement ceux qui l'appliquent doivent intégrer plus de 300 règles et que finalement cette question du management souple ne l'est pas tant que ça.
Ne l'est pas tant que ça, et il cite même Johann Chapoutot à la fin de l'ouvrage, la question de France Télécom, hein, dont le jugement a été rendu récemment, dans un jugement qui citait d'ailleurs Victor Klemperer. On avait parlé ici du livre de Patrick Joly sur Klemperer et sur la langue des nazis, et qui montre que finalement ce n'est pas si absurde que ça de tirer cette histoire, de faire cette histoire du management du nazisme à aujourd'hui, Joseph Confavreux.
Non, alors que là, je reviens à l'idée que...
Non, pas pour dire que les dirigeants de France Télécom sont des nazis encore.
Voilà.
Enfin, il faut toujours prendre des précautions.
Non, mais il faut prendre des précautions parce que, par exemple, il y a eu ce livre important du psychiatre Christophe Dejour, Souffrance en France, qui a été assez un détonateur pour comprendre au fond la souffrance qui se crée au travail, mais qui a été aussi attaqué parce que il utilisait beaucoup la notion de banalité du mal, donc forgée par Hannah Arendt pour parler d'Eichmann. Et donc c'est vrai que dès qu'on commence à se dire oulala, il y a une comparaison possible entre le nazisme et le management, on se dit attention, zone rouge, on va y aller trop fort. Mais là où justement Chapoutot évite complètement ça, c'est en simplement en faisant le parcours. Et je pense que là, il faut reparler du parcours de ce Reinhard Höhn après la guerre, en montrant que simplement, il a été quand même mis à la tête de la principe d'une école fondée pour cela par la RFA, et que il a inventé une méthode, hein, c'est qu'on appelle la méthode de Bad Harzburg, du nom de la localité où se trouvait cette école, et que elle a fait la fierté de l'Allemagne, soi-disant dénazifiée. Bon, après, on sait que dans les années 70, donc et notamment pour Reinhard Höhn, un article en 1971 qui revient sur son passé nazi, globalement dans un moment où c'est vrai que l'Allemagne avait voulu un peu oublier, mais où les cadres étaient très très présents dans cette école. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il rappelle quand même que Reinhard Höhn n'est pas le seul ancien pro-nazi à avoir écrit sur le management, puisque nous avons, nous en France, notre Maurice Papon, qui a écrit un essai de management intitulé « L'ère des responsables », qui lui a permis lui aussi, hein, après avoir bien servi Vichy, de devenir préfet à Paris, notamment le 17 octobre et 61, et puis ensuite de diriger ce qui était l'ancêtre de l'aérospatiale. C'est-à-dire que ces gens-là, sous le nazisme ou sous Vichy, avaient vraiment réfléchi à qu'est-ce que c'est d'être un chef et comment on organise la vie des hommes.
17 octobre 61, qui est évidemment la répression sanglante d'une manifestation d'Algériens à Paris, la fameuse manifestation de Charonne, Thibaut Sardier.
Oui, c'est tout ce que Chapoutot appelle les effets de contemporanéité, c'est-à-dire quand on se replonge dans des archives du Troisième Reich, ou de Höhn ensuite, ces mots qui résonnent étrangement avec le présent, les directives, les objectifs, les fiches de poste, la concertation, la subsidiarité, la liberté, des choses qu'on retrouve effectivement assez facilement dans des documents de management aujourd'hui. Donc il ne nous explique pas que le nazisme a créé le management et qu'on en serait les héritiers. héritier direct. Par contre, effectivement, il nous partage ce trouble de l'historien qui consiste à dire, aujourd'hui, nous utilisons un vocabulaire, un système qui s'est inscrit aussi dans ce contexte. Ça doit nous amener à réfléchir. C'est pas pour autant qu'il trace une ligne directe. Donc, le chemin est parfois un peu difficile. Des fois, il est sur une ligne de crête, mais on comprend aisément ce qu'il veut dire malgré tout.
Oui, ça va très loin. Pour terminer, Joseph Confavreux, c'est que finalement, cette interrogation qu'il a, ça va jusqu'à interroger la notion, par exemple, de consentement, de recherche du consentement par le pouvoir, puisqu'il montre que les nazis étaient en permanence en train de négocier avec le peuple, avec la population, alors qui est vue comme une communauté, évidemment, une communauté unie et unique qui exclut les juifs, notamment, que des germains, mais malgré tout, il y a cette volonté de rechercher le consentement en permanence. Alors évidemment, ça fait aussi écho avec des réflexions politiques qu'on peut avoir aujourd'hui.
Oui, c'est là où le livre est troublant, effectivement, par les effets de présence du passé dans notre monde qu'il décèle. Et effectivement, comme le disait Thibault, il suit une ligne de crête, parce que quand il dit que Reinhard Heine a presque la valeur d'une parabole pour lire et comprendre le monde dans lequel nous vivons, voilà, est-ce qu'on peut aller jusque-là sans atteindre le point Godwin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est la manière dont il dit qu'au fond, l'ordolibéralisme, qui est le libéralisme version allemande qui a insufflé la version de l'Europe, était assez intéressé par cette idée de liberté d'obéir, c'est-à-dire en fait une liberté limitée, déresponsabilisant les donneurs d'ordre et permettant de mobiliser la population tout en la contentant à la marge du moment qu'on parle toujours de la population qui appartient vraiment à la communauté nationale.
Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, c'est donc le dernier essai de Johann Chapoutot. Il est publié dans la collection NRFSC chez Gallimard.
L'instant critique.
L'instant critique, c'est la fin de l'émission. Vous venez avec des conseils et vous êtes tous les deux venus avec des livres, j'ai l'impression. Vous trouvez que c'est pas assez de devoir lire les 500 pages du Charbonnier? Bon, il y a que 160 pages dans le Chapoutot, mais tout de même.
Moi, c'est un petit livre. Celui de Thibault, on va commencer avec le sien parce qu'il a l'air aussi gros que le Charbonnier.
Thibault Sarrier.
Oui, il est aussi gros que le Charbonnier, mais il se rattache plutôt à ce qu'on vient de dire sur Johann Chapoutot. Alors, je suis remonté, c'est pas tout à fait de l'actualité, je suis remonté aux sorties des romans de septembre pour vous parler de La Jumelle H chez Verdier, par l'auteur italien Giorgio Falco, qui raconte l'itinéraire d'une famille allemande depuis le Troisième Reich, justement, jusqu'au début du XXIe siècle, avec deux jumelles qui racontent tour à tour leur vie, et notamment le parcours de leur père, qui s'appelle Hans Hinner, et qui est, nous dit la quatrième de couverture, et c'est l'expression juste, un nazi bon teint. Il travaille comme journaliste, au début un peu scribouillard, dans une petite ville de province, et puis ça marche de mieux en mieux parce que son journal devient l'organe local du NSDAP dont il propage la bonne parole. Et c'est l'itinéraire sans accroc d'un sympathisant nazi qui n'est pas vraiment pour le coup responsable de quoi que ce soit, mais qui rachète la maison du voisin juif parce que les lois d'un coup le permettent et que c'est une belle opportunité pour progresser et puis pour s'acheter aussi une belle Volkswagen. Donc c'est un peu cet itinéraire d'un anonyme qui sans être vraiment responsable et tout à fait en phase avec les valeurs de son époque et qui les poursuit pendant toute la seconde moitié du XXe siècle où il ouvre un petit hôtel sur une côte italienne et où les affaires finalement ne marchent pas si mal.
Giorgio Falco, donc La Jumelle H, c'est publié aux éditions Verdier, c'est sorti en septembre, mais on vous pardonne Thibault Sardier car c'était tout à fait en lien avec l'émission c'est du jour. Joseph Confavreux.
Alors donc Thibault a choisi un gros livre pour faire écho au petit livre de Johann Chapoutot. Moi j'ai choisi un petit livre pour faire écho au gros livre aride, parfois ardu en tout cas, de Pierre Charbonnier. C'est un livre sur ITER, Soleil trompeur, ITER ou le fantasme de l'énergie illimitée. Donc ITER qui est un rêve aux résonances prométhéennes d'un réacteur nucléaire expérimental qui est situé à Cadarache en Provence. C'est un projet inédit, donc voilà, c'est pour ça que ça fait écho au Pierre Charbonnier, puisque si les formes d'énergie déterminent les formes sociales, on peut se demander ce que serait ce projet inédit de fusion, qui est l'idée de mettre le soleil en boîte, c'est d'avoir la même réaction que sur le soleil, alors que le nucléaire classique, c'est la fission, c'est l'éclatement des noyaux d'atomes d'uranium. C'est un projet auquel participent à la fois les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Union européenne, et Isabelle Bourboulon, qui est journaliste, en a fait une a fait une enquête dessus aux éditions Les Petits Matins. Pour elle, hein, c'est une chimère scientifique, doublée d'un gouffre financier, au minimum 40 milliards d'euros, dont près de la moitié à la charge des contribuables européens. Elle raconte à la fois les origines politico-diplomatiques du projet sur fond de détente américano-soviétique. Elle met au jour ce qu'elle appelle les mensonges, hein, des lobbies industriels, et elle alerte surtout sur les dangers pour elle d'un projet à la fois technique et politique, qui pour elle est complètement incompatible avec ce que disait Pierre Charbonnier de l'ère du changement climatique.
Donc Soleil trompeur, c'est d'Isabelle Bourboulon, publié aux éditions Les Petits Matins. Merci Joseph Confavreux, merci Thibaut Sardier d'avoir participé à cette émission d'Avis Critique. Avis Critique, c'est terminé. Attaché d'émission Catherine Donnet, à la réalisation aujourd'hui Stéphanessa Nadjar, et à la prise de son Alain Joubert. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page d'Avis Critique, franceculture.fr bien évidemment. Vous pourrez aussi vous abonner au podcast, c'est la meilleure résolution que vous pourriez prendre en 2020. Dans quelques instants, Jukebox. Thank you.